De l'autre côté de la barrière ou des barbelés, l'herbe semble toujours plus verte, plus grasse et donc meilleure. Mais c'est un mythe, celui qui est confortablement installé dans un pays et qui prend la décision d'aller dans un autre subit un déracinement terrible. Il perd son réseau social, les connaissances et les amis qu'il s'était fait, ainsi que tout le système de ressources humaines qu'au fil du temps il s'était constitué. Le médecin, le plombier, le garagiste. Ensuite, il s'expose à toute une liste de désagréments, à la désillusion, à la dépression et à des risques financiers, sauf s'il a la chance de travailler pour une grosse multinationale qui couvrira tous ses frais. S'il a une famille et des enfants scolarisés, la complexité des problèmes à résoudre prend l'allure d'une courbe exponentielle. Pourtant, il arrive que par devoir, on doit tout plaquer et repartir à zéro. C'est exactement ce qu'ont fait les premiers colons juifs qui ont quitté la Babylonie, leur pays d'exil et d'adoption. Ils ont tout vendu, bouclé leurs valises, dit au revoir, puis sont partis pour la terre promise et plus précisément le pays de Juda. Après un long périple qui a duré des mois et ressemblé au parcours du combattant, ils sont arrivés en Palestine tout feu, tout flamme. Ils ont immédiatement remis sur pied l'autel des holocaustes, puis ont voulu s'attaquer à la reconstruction du temple de l'Éternel qui avait été détruit environ 50 années auparavant par les Babyloniens. Mais les colons ont tellement rencontré de difficultés et surtout l'animosité des Samaritains qu'ils ont jeté l'éponge et se sont refermés sur eux-mêmes. Le temps passe, puis le prophète âgé entre en scène. Il reproche aux Israélites leur préoccupation pour leurs propres affaires et surtout leur construction luxueuse, ainsi que l'indifférence qu'ils affichent à l'égard du temple de l'Éternel depuis qu'ils ont abandonné sa reconstruction. Âgé oblige alors les Israélites à réfléchir sur leurs conditions de vie misérables qu'ils interprètent à la lumière des textes de l'Alliance de la Loi. Les problèmes que les colons rencontrent sont un jugement de Dieu contre eux. Le prophète les appelle alors à se repentir en rouvrant le chantier du temple. Le peuple rassemblé prend au sérieux les reproches qu'il entend et reçoit en retour des paroles d'encouragement de la part de l'Éternel. Je commence à lire le chapitre 2 du livre d'Agé. Le 21e jour du 7e mois, l'Éternel fit entendre sa parole par la bouche du prophète Agé en ces termes. Verset 1. Cette date correspond au 17 octobre de l'an 520 avant Jésus-Christ, environ un mois après le début de la reprise des travaux de reconstruction du temple. Nous sommes au dernier jour de la fête des cabanes ou tabernacles, et à cette occasion, et selon la loi, les Israélites devaient se réjouir et fêter les moissons de l'été. Je lis un passage. Le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez récolté tous les produits de vos terres, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier et le 8e jour seront des jours de repos. Le premier jour, vous prendrez de beaux fruits de vos arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et de saules des rivières. Pendant 7 jours, vous vous réjouirez devant moi, l'Éternel votre Dieu. Vous habiterez pendant 7 jours dans des cabanes. Tous ceux qui seront nés en Israël logeront dans des cabanes pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais pour les colons juifs, la nature joyeuse de ce festival était ternie par leurs moissons qui ne devaient pas être très abondantes et par le fait qu'ils n'avaient toujours pas de temple en état de fonctionner. De plus, la progression des travaux était lente car il y avait plus de 60 années de gravats à déblayer et de nombreux jours de repos obligatoires qu'ils devaient consacrer à l'Éternel. En effet, en plus des sabbats habituels, Le septième mois de l'année juive comptait plusieurs fêtes. Les trompettes, le premier jour du mois, Yom Kippour, le dixième jour, la fête des cabanes, du 15 au 21, et le 22 du mois était lui aussi férié. Je continue le texte. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et à tout le reste du peuple, et dis-leur. Reste-t-il parmi vous quelqu'un qui ait connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux? Versets 2 et 3. Ce message est adressé à tous, sans exception, aux chefs temporels et spirituels du peuple, mais aussi à tous les Israélites qui ont quitté la Babylonie pour venir s'établir en Juda. Ce second discours d'Agé fut probablement motivé par le découragement des colons qui se plaignaient qu'en l'état actuel des choses, il leur était impossible de reconstruire un temple digne de l'ancien, le célèbre temple de Salomon. En effet, dans les rangs des Israélites, il se tenait encore quelques vieillards qui, dans leur tendre enfance, avaient connu et admiré l'ancien temple détruit en 586 avant Jésus-Christ. 16 ans plus tôt, avait eu lieu la pose des fondations du nouveau temple. Je lis ce passage. Dans la deuxième année, après l'arrivée des exilés au temple de Dieu à Jérusalem, au deuxième mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yehotsadak, et le reste de leurs compatriotes, les prêtres et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de captivité à Jérusalem, commencèrent le travail. Les lévites, âgés de 20 ans et plus, furent chargés de superviser les travaux du temple de l'Éternel. Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils qui étaient des descendants de Juda, eurent pour fonction de superviser, tous ensemble, ceux qui travaillaient au chantier. Ils étaient assistés des descendants de Henadad avec leurs fils et leurs parents, les Lévites. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on mit en place les prêtres revêtus de leurs habits de cérémonie, avec les trompettes en main, et les Lévites descendants d'Azaph, avec les cymbales, afin de louer l'Éternel selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Ils entonnèrent des hymnes de louange et des cantiques de remerciement pour célébrer l'Éternel en chantant à tour de rôle. Oui, il est bon, et son amour pour Israël dure à toujours. Tout le peuple fit aussi retentir de grandes acclamations pour louer l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de son temple. Fin de citation. Cependant, ces réjouissances furent entachées par le comportement des vieux qui avaient vu le sanctuaire précédent. Ils se sont mis à pleurer à grand bruit, en songeant combien minable serait ce nouvel édifice dont on commençait seulement la construction. Je lis le passage. Beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de groupes familiaux parmi les plus âgés, qui avaient encore vu l'ancien temple, pleuraient à haute voix, pendant que l'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple, alors que beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par des acclamations bruyantes, de sorte qu'on ne pouvait pas distinguer les ovations joyeuses des pleurs. Les vieux ont refroidi l'ardeur, le zèle et l'enthousiasme des colons. C'est comme s'ils leur avaient jeté de l'eau glacée à la figure. Cette même attitude décourageante refait surface maintenant que les travaux ont repris. Pourtant, il ne devait pas rester beaucoup de vieillards qui avaient vu le temple de Salomon, mais ceux qui tenaient encore debout ont réussi à communiquer leur désillusionnement à la nouvelle génération. En conséquence, dès les toutes premières étapes de la construction, certains bâtisseurs font grise mine parce qu'ils imaginent déjà dans leur tête que le nouveau bâtiment sera minable comparé à la gloire du temple de Salomon. Quand j'étais adolescent, les anciens aussi disaient « Ah, oh, mon pauvre, de mon temps, ceci et cela, c'était bien mieux que maintenant. » Il faut dire que pour les colons juifs, la mémoire des jours anciens et glorieux tranche rudement avec la dure réalité présente. Les Israélites sont devant des monceaux de ruines et ils savent que le coffre de l'Alliance, symbole de la présence divine, a disparu à tout jamais dans la tourmente de l'invasion babylonienne. Conscient de ses sentiments négatifs, le nouveau discours d'Agé est destiné à donner au peuple l'assurance que l'Éternel revêtira sa nouvelle demeure de la splendeur qui lui convient. Agé commence par demander « Reste-t-il parmi vous quelqu'un qui ait connu ce temple dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas comme rien aujourd'hui à vos yeux ?» Ces trois questions de rhétorique s'adressent d'abord aux plus anciens. En exprimant par des mots ce qu'ils pensent, le prophète veut mettre carte sur table et ainsi désamorcer une bombe avant qu'elle n'explose et ne fasse davantage de grabuge. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » En posant la question « Reste-t-il parmi vous quelqu'un qui ait connu ce temple dans son ancienne gloire ?», Agé superpose le nouveau bâtiment sur le temple de Salomon. Il sera partiellement construit avec les mêmes matériaux, sur le même emplacement. Il sera adapté aux besoins des colons, satisfera les exigences divines et occupera la même place qu'auparavant dans la vie de la nation. Agé rappelle ainsi qu'il n'y a qu'un seul temple, quelle que soit la date de sa construction, quelle que soit sa beauté ou la richesse de ses décorations et du mobilier. Quand Cyrus a émis le décret autorisant les Juifs à retourner dans leur pays, c'était pour reconstruire le temple de l'Éternel aux mêmes dimensions que le précédent. Ce roi ne voulait pas s'attirer les foudres d'un dieu qu'il ne connaissait pas et qui ne possédait pas de statue. Tout porte à croire que telle était aussi l'intention de Zorobabel. Mais avec les faibles ressources dont il disposait, il lui était impossible de bâtir une copie conforme au temple de Salomon. Le nouveau n'était guère plus petit que le précédent. Par contre, il ne possédait pas ses parures et ses ornements, sa splendeur et son luxe. Zorobabel n'avait à sa disposition ni or, ni pierres précieuses avec lesquelles décorer le sanctuaire. Les rédacteurs du Talmud, la tradition juive, ont souligné cinq lacunes du nouveau temple. Il n'avait pas le feu sacré qui brûlait jour et nuit. Il n'avait pas l'Ourim et le Toumim dont se servait le grand prêtre pour connaître la réponse de Dieu à une question. Il n'avait pas non plus l'esprit de prophétie, la gloire de l'Éternel pour le remplir. Et enfin, il n'avait pas le coffre sacré avec son couvercle minutieusement travaillé, celui-ci ayant disparu. Je continue le texte. « Mais maintenant, courage ! Zorobabel, dit l'Éternel, toi aussi, Josué, fils de Yehotsadak, mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. » Verset 4. Il est intéressant de remarquer que le mot « courage » ou « sois fort » selon les versions est dit trois fois pour bien le mettre en valeur. Puis il est suivi par « Mettez-vous à l'œuvre ». Ces deux exhortations, « être fort » et « travailler », sont des ordres que l'Éternel donne aux colons par le biais de son prophète. Ce discours fait écho aux paroles que le roi David a dites deux fois de suite à son fils Salomon au sujet de la construction du temple. Je lis ces passages. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour lui construire un édifice qui serve de sanctuaire, prends courage et au travail. Mon fils, prends courage, tiens bon et mets-toi au travail. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tu aies achevé tout le travail à effectuer pour le temple de l'Éternel. Après la mort de Moïse, Dieu a dit à Josué, « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, il n'y a pas eu de cérémonie particulière avec tapis rouge, fanfare, sonnerie de trompette et roulement de tambour. En quelques mots, l'Éternel dit à Josué, « C'est toi le chef des 12 tribus, en réalité 13, et le commandant de l'armée d'Israël, tu as carte blanche pour faire la conquête du pays de Canaan. Vas-y. » Jusqu'alors, ce brave homme, courageux, était l'aide de camp fidèle de Moïse, et voilà que soudainement il est propulsé à la tête d'un peuple immense. Ce n'était pas une petite affaire, car en prenant la place de Moïse, il avait devant lui d'énormes souliers à remplir. Josué a dû avoir des sueurs froides, ce qui explique pourquoi Dieu lui a dit « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Il faut remarquer que l'Éternel a dit à Josué 3 fois de suite, « Prends courage et tiens bon. » Et 2 fois, « Je serai avec toi. » Le nouveau dirigeant d'Israël aura à ses côtés celui qui accompagna la droite de Moïse de son bras glorieux, comme l'appelle Ésaïe. Et pour bien enfoncer dans le crâne de Josué toutes ses promesses, Dieu ajoute « Personne ne pourra te résister, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Si l'Éternel a déversé un plein seau de paroles encourageantes sur la tête de Josué, c'est qu'il en avait besoin, parce que la tâche qui l'attendait allait être particulièrement ardue. L'ordre divin d'être fort se trouve également et plusieurs fois dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul écrit « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance, soyez vigilants. » Demeurez ferme dans la foi, faites preuve de courage, soyez fort. Et à son disciple Timothée, il dit, toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. La seconde épître à Timothée est le chant du signe de l'apôtre Paul. Dans cette ultime lettre, il donne un certain nombre de conseils à son jeune disciple, et la dernière exhortation qu'il met par écrit concernant la vie chrétienne est la suivante. « Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. » Il s'adressait à un pasteur prédicateur, mais ce que Paul a dit s'applique à tous les croyants. Il suffit de lire « Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien le rôle que Dieu t'a assigné, accomplis pleinement l'œuvre que Dieu t'a confiée. » Comme les colons juifs se sentent écrasés par la tâche titanesque qui est devant eux, le prophète Agé ne se contente pas de leur donner l'ordre « Mettez-vous à l'œuvre !» mais il ajoute une promesse de la part de l'Éternel qui est « Car je suis avec vous !» Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Tout comme Dieu avait accompagné les Hébreux pendant l'Exode quand ils sont sortis d'Égypte, il sera présent au milieu des colons pendant qu'ils rebâtiront le temple. Il faut rappeler une fois encore que cette tâche est directement associée à leur exode hors de Babylone. En effet, le contenu du décret signé par l'empereur Cyrus mentionne spécifiquement la reconstruction du temple de l'Éternel. C'est la raison qu'il invoque quand il autorise les Israélites à quitter leur pays d'exil pour le pays de Canaan, la terre promise que Dieu avait juré de donner à leurs ancêtres à perpétuité. C'est le règne de 1000 ans de Jésus qui aura son trône à Jérusalem, qui sera l'accomplissement parfait et final de cette promesse.